Vous écoutez, on lit pour vous.
La misère près de chez nous. Un texte de Mathieu Bellil paru le 1er mai 2024 dans la presse. J'habite Montréal depuis 30 ans. Et je ne me souviens pas d'avoir vu autant de misère à l'air libre. J'ai l'impression d'être revenu aux années 1990, celle de la récession, du grunge et des guerres de motards, sauf qu'à cette époque, c'est Montréal presque tout entier qui était pauvre. On pouvait tirer le diable par la queue et habiter un vieux loft délabré du Mile End, vivre à 5 dans un 7,5 sur le plateau Mont-Royal, louer une chambre pour 3 fois rien. Et jusqu'au tournant des années 2000, il était encore possible pour des jeunes dans la vingtaine de devenir propriétaires. Imaginez, dans Rosemont, on trouvait des duplex pour moins de 150 000 $. Cette époque est maintenant révolue. Montréal est passé de ville pauvre à ville chère. À l'heure de la gentrification et de l'Airbnbisation, alors que toujours plus de gens arrivent en ville sans qu'on construise assez pour les accueillir, les plus vulnérables sont refoulés dans la rue. Ils ne peuvent plus se cacher dans des maisons de chambre et des refuges. Ils n'ont même plus le luxe de squatter des immeubles à l'abandon ou d'occuper des terrains vagues. Les trous se sont remplis. Les espaces libres sont devenus rares. Les condos et les maisons de ville poussent partout. Les tours de bureaux se dressent comme des flèches dans l'azur. Les plus riches vivent en hauteur, dans leur loft ensoleillé, tandis que les pauvres restent tout en bas, dans la pénombre. On les retrouve jusque dans les souterrains, où ils vivotent au milieu des saletés. L'autre jour, à la station Côte-des-Neiges, j'ai compté une bonne dizaine de personnes dormant à même le sol. Il y avait quelques sans-abri typiques, désolé de le dire ainsi, mais aussi, chose inhabituelle, 2 femmes plutôt jeunes, étendues tout près du guichetier pour s'assurer d'un minimum de sécurité. À la station d'Iberville, dans l'est de Villeray où j'habite, on trouve toujours le bon Michel, assis à côté de la porte, qui fait la quête en offrant ses conseils de cinéma. Il a longtemps travaillé dans un club vidéo qui a fermé. Mais autour de lui, on aperçoit désormais une nouvelle faune, composée de sans-abri et de mendiants, de vendeurs et de consommateurs de drogue, de migrants et de femmes qui font la rue, autant de gens pour qui l'édicule est devenu un asile. Le plus terrible, c'est qu'on s'habitue à cette misère. Les pauvres gens, on les remarque au début, surtout s'ils sont en crise ou qu'ils sentent, puis on finit par ne plus les voir. Parce que la vie nous presse, qu'il y a mieux à faire. Et si on ne les voit plus au bout d'un moment, c'est aussi parce qu'ils nous renvoient au visage une réalité qu'on préfère ignorer. Ils nous offrent le triste spectacle des écarts de richesse, de la violence ordinaire et de l'indignité. Au Québec, nous avons encore de la difficulté à penser le pouvoir et les rapports de force, à admettre l'existence des classes sociales. L'élite se distingue par son refus de la distinction. Et nous aimons croire que tout le monde vit grosso modo dans les mêmes conditions, que tout le monde fait partie de la même étoffe, tissée, serrée. Pendant longtemps, la messe du dimanche a servi de grande égalisatrice. Les quelques riches et les nombreux pauvres se réunissaient autour du rite de la communion pour entendre le sermon du prêtre. Quand la religion est tombée, la télévision a pris le relais. À heure de grande écoute, elle nous a offert et nous offre encore l'occasion de nous réunir autour de quelques symboles, d'une chanson, d'un rire ou d'un verre de vin. Maintenant que le pouvoir de la télévision faiblit, ce qui nous rassemble n'est plus clair. Ce qui nous sépare devient chaque jour plus évident. La fameuse classe moyenne, dont tout le monde parle, que les politiciens et les médias courtisent, tient en bonne partie de l'illusion. Car, selon les critères de l'OCDE, appliqués aux revenus des ménages québécois, une personne seule qui gagne $31 000 par année et un couple avec enfant qui gagne $253 000 par année font théoriquement partie de la même classe dite moyenne. Peut-on croire sérieusement que ces gens appartiennent au même monde? Depuis quelques années, c'est l'existence de ce fossé que la littérature québécoise contribue à révéler. Je pense à « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert, qui montre que la conscience de classe rend aveugle aux misères de ceux qu'on chasse d'un quartier à coups de rénoviction et de projets domiciliaires. Je pense à « Là où je me terre » de Caroline Dawson, qui rappelle qu'aux yeux des nouveaux arrivants, ce sont souvent les Québécois de souche qui passent pour les maîtres et les favorisés. Comment oublier cette scène poignante où la jeune Caroline, en visite chez une amie dans un beau quartier de Brossard, se rend compte qu'après la fête, c'est sa mère Natalia, humble femme de ménage, qui devrait tout nettoyer. Je pense enfin à « Rue du Plessis » de Jean-Philippe Plot, qui révèle que la pauvreté n'est pas seulement une affaire d'argent, mais aussi d'éducation et de culture, que les pires barrières sont souvent invisibles, l'analphabétisme par exemple. Ces auteurs, et d'autres encore, comme Sophie Bienvenue et Francis Ouellette, nous invitent à reconnaître que nous n'avons pas tous la même chance, que bien des choses en ce monde ont besoin d'être réparées. Il nous révèle une société, la nôtre, marquée par de nombreuses déchirures, Plot, où la richesse des uns fait parfois, hélas, la misère des autres. C'était « La misère près de chez nous », un texte de Mathieu Bélisle, paru le 1er mai 2024 dans la presse.
Le rêve du céleri du Québec toute l'année, un texte de Maryse Tessier, paru le 21 juin 2025 dans la presse. Nous avons des tomates, des mini-concombres et de la laitue d'ici toute l'année. Or, un aliment très prisé des boîtes à lunch, le céleri, n'est offert que pour une courte période. Peut-on rêver de cette plante potagère à longueur d'année? Où pouvons-nous trouver du céleri socialement acceptable? Nous a demandé Stéphane Desjardins, lecteur de la rubrique « Du local au rabais ». Sachez qu'il y a bel et bien de la culture de céleri au Canada. Le Québec et l'Ontario sont les provinces productrices. Selon le calendrier des disponibilités des fruits et légumes du Québec, offert sur le site Manger Québec, on peut trouver dans nos étalages le céleri d'ici, de la mi-juillet jusqu'à la mi-novembre. La racine, le céleri rave, est prête à être récoltée à la mi-août jusqu'à la mi-novembre. Le reste de l'année, les récoltes des États-Unis et du Mexique sont offertes dans les étalages des épiciers. Comme nous l'a indiqué M. Desjardins, il est facile de se rabattre sur du céleri mexicain en se fiant à l'emballage. Or, si les indications ne sont pas limpides, il préfère s'abstenir, comme le veut la tendance du moment concernant les produits américains. Une culture en serre, pas si simple. Des entreprises spécialisées dans la culture en serre sont unanimes. La culture du céleri en serre toute l'année ne serait pas rentable. Selon Valérie Thérault, directrice vente et marketing de Culture Gène V, même s'il est possible de faire pousser en serre bien des aliments aussi exotiques que des bananes et des figues, le problème avec certains légumes, c'est qu'ils prennent énormément de temps à pousser en serre. Madame Thérault explique, en tant que producteur, on mesure la rentabilité en fruits ou légumes par mètre carré sur une période donnée. Avec le temps de croissance et le nombre si peu élevé de récoltes, le prix serait donc très élevé et loin d'être compétitif avec les céleris des champs. Son de cloche similaire chez les Enfants de la Terre, un producteur situé à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. L'entreprise spécialisée dans la culture de tomates, concombres, poivrons, gingembre et curcuma en serre estime que, même si sa clientèle a un fort engouement pour les légumes locaux pendant l'été et l'automne, l'intérêt tend à diminuer à la fin de l'automne jusqu'au printemps. Les cultures qu'elle préconise sont stratégiques, car elles lui permettent d'optimiser la rentabilité dans un contexte nordique, tout en répondant à la demande réelle de sa clientèle locale, selon Joël Lafrenière, copropriétaire des Enfants de la Terre. Nous ne cultivons pas de céleri, et ce n'est pas une culture que nous prévoyons introduire à court terme dans notre entreprise, affirme Madame Lafrenière. Connue pour ses paniers biologiques, les fermes Lufa, quant à elles, cultivent le céleri en petite quantité dans leur ferme intérieure, surtout lorsqu'il s'intègre bien au cycle de culture, indique le porte-parole Émilie Péloquin. Ce n'est pas une production à grande échelle pour le moment, poursuit-elle. La plante pousse lentement, prend beaucoup d'espace et offre un faible rendement comparé à d'autres cultures. Autonomie alimentaire. Toute cette question nous amène à réfléchir à notre autonomie alimentaire et à ce que nous sommes prêts à faire pour laisser une place plus grande à l'agriculture locale. La copropriétaire des Enfants de la Terre, Joëlle Lafrenière, nous ouvre la porte. Sommes-nous prêts, comme société, à faire de la place à une production agricole plus locale, même lorsque cela implique des choix différents, comme payer un peu plus, adapter nos habitudes ou revoir notre calendrier de consommation? Aux consommateurs de décider s'ils embarquent dans le train ou pas. Les vertus du céleri. Le céleri est un aliment riche en vitamine K, laquelle intervient essentiellement dans la coagulation du sang et le maintien de la santé des os et des tissus. Il contient des antioxydants bénéfiques contre le cancer, est riche en fibres alimentaires et pauvre en calories. C'était « Le rêve du céleri du Québec toute l'année », un texte de Maryse Tessier, paru le 21 juin 2025, dans la presse.
Reprendre plaisir à la vie grâce au théâtre. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir. Il y a des émotions qui s'expriment mieux par la fiction que par la réalité, et des traumatismes qui se dépassent mieux par l'art que par la psychothérapie. C'est ce dont témoignent une vingtaine de comédiens et auteurs amateurs qui ont trouvé leur planche de salut dans les locaux du Théâtre du Nouveau Monde, TNM. « Je ne suis plus hanté par les problèmes de mon passé, parce que je les ai écrits et garochés sur scène », lance José Fournier, assise sur une chaise dans la salle de répétition. Elle forme un cercle avec les autres participants au programme « Théâtre et rétablissement du TNM » qui vivent soit avec des problèmes de santé mentale, soit avec des troubles du langage. Le but du projet, qui existe depuis une dizaine d'années, c'est de permettre au groupe d'être dans l'action et la prise de parole par le théâtre et, surtout, d'avoir du plaisir, explique devant le groupe Claudia Bilodeau, responsable de la médiation culturelle au TNM. Le projet est en partenariat avec le théâtre aphasique, l'organisme Les Impatients et le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Même s'il n'y a pas d'objectif clinique à proprement parler, tous les comédiens tiennent à souligner le bien fou que cette activité leur procure. « Ça m'a permis de rebâtir ma vie sociale, de rencontrer du monde après être sorti de la maladie », témoigne Normand Rivard, qui estime que le programme lui a donné des ailes pour écrire également des recueils de poésie. Les personnages et leurs répliques sont écrits par les comédiens eux-mêmes, par le biais d'exercices dirigés par Mme Bilodeau. Le thème, cette année, est un dialogue avec Régent Ducharme, qui a légué une grande partie de ses droits d'auteur au TNM. La pièce sera d'ailleurs présentée au public en juin dans la salle Régent Ducharme, récemment construite. Ducharme aimait parcourir les ruelles, ramasser de petits déchets pour en faire des œuvres signées Roqueplante, expose Madame Bilodeau. Ses créations, il les appelait ses « trous fous ». Il leur donnait des titres super inspirants, comme « Le mal est fait »,« Tu m'as-tu vu » ou « Échantillon », précise-t-elle. « J'ai demandé à chacun d'en choisir un pour en faire son alter ego. Si ce trou fou était quelqu'un, quel genre de personne ce serait ?» Le plaisir des sens. En marge de la répétition, plusieurs prennent le temps de présenter au devoir leur personnage, qui correspond à une part d'eux-mêmes. Caroline Pelletier est la première à se prêter au jeu. Elle a choisi d'incarner le plaisir des sens. « Depuis mon AVC, je ressens tout plus qu'avant. Comme je ne travaille pas, je prends mon temps. Je ne marche pas vite, je prends le temps d'écouter les oiseaux. C'est mon bonheur d'être assis sur la terrasse et de sentir les lilas, précise celle qui se déplace avec une canne et qui compose avec une légère difficulté d'élocution. Il y a 23 ans, alors qu'elle en avait 32, Madame Pelletier a été plongée dans le syndrome d'enfermement. J'avais juste les yeux qui bougeaient. Avaler, parler, il a fallu tout réapprendre, indique la délicate dame aux cheveux grisonnants. Faire du théâtre au TNM lui permet de se dépasser et de sortir de sa coquille. Apathie et patata. Sioux Deslongchamp parle doucement en tripotant sa marionnette de chien. Patata, la moitié de son duo Apathie et Patata. Apathie, il est fermé, il bougonne, il rouspète, il est très critique et il est amer. Mais il a Patata pour équilibrer son quotidien, décrit l'homme de grande taille, dont la casquette noire et orange est enfoncée sur une tête couverte de dreadlock. Patata, il ne se complique pas la vie, il prend la journée comme elle est. Il part à la découverte. S'il voit de quoi, il va le prendre dans sa bouche et le sentir, poursuit-il. Ces personnages représentent deux facettes de sa personnalité. Apathie, c'est la personne autiste Asperger qui, pendant une grande partie de sa vie, s'enfermait et voulait qu'on lui foute la paix. Patata, c'est son enfant intérieur qui s'ouvre aux autres, qui aime toucher les arbres et qui commence à mieux se comprendre, surtout depuis son diagnostic reçu tardivement. La création, non seulement par le théâtre, mais aussi par la musique et la bande dessinée, aide Sioux Deslongchamp à se sentir vivant. Il a maintenant l'impression de faire partie de ce monde qu'il a souvent perçu comme insaisissable. « Tu m'as-tu vu ?» José Fournier, elle, raconte en quelque sorte sa débarque sociale, avec son rôle de « Tu m'as-tu vu ?». Dans la première partie de la pièce, son double est une femme flamboyante qui vante sa grosse job, son beau condo et ses voyages. Plus tard, elle raconte qu'elle a, en fait, tout perdu. « Je me suis senti comme de la merde quand j'ai perdu mon poste chez Bell, qui a envoyé nos emplois en Inde. » Je n'en ai jamais retrouvé d'autres et je me suis ramassé sur l'aide sociale, rapporte cette femme bipolaire, patiente partenaire à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Les deux années précédentes, Madame Fournier avait exprimé sur scène d'autres éléments de son expérience de vie. Après ma dernière rechute, je ne savais plus qui j'étais. En écrivant des scènes et en les jouant, j'ai eu l'impression d'accoucher de moi-même. Le théâtre m'a mise au monde, en quelque sorte, juge-t-elle. Le théâtre, c'est aussi son bonheur hivernal et son sentiment d'accomplissement. Elle répète chez elle de façon très assidue, « Ça me mobilise parce que sinon je passerai l'hiver enfermé et je dépérirai », assure-t-elle. Une synergie d'expérience de vie. S'exprimer à travers un personnage, c'est une façon de se révéler de façon sécuritaire, estime François Lemonnier Lalonde. Il décrit son personnage comme une espèce de cyborg demi-humain qui commence à découvrir les émotions. On ne se connaît pas les uns les autres à l'extérieur du théâtre, mais tout le monde arrive avec un bagage émotionnel, avec une énergie qu'on arrive à canaliser sans dévoiler nos problèmes personnels, témoigne-t-il en fixant le texte qui se trouve dans ses mains. C'est naturel et décomplexé. On apprend à ne pas avoir honte de qui on est. Toutes ces histoires ont été combinées en une seule trame narrative par la magie de Claudia Bilodeau. Le résultat, c'est une journée dans la vie de Régent Roch, explorateur de vidange. En se promenant dans une ruelle, il croise, les uns après les autres, les inspirations pour ses troufous. Le rôle du mystérieux créateur est tenu par le comédien Jean-François Casabonne. Ce n'était pas pour rien que j'avais l'œil agité, le pied fourré partout. C'était pour me retracer, me recouvrer. Moi comme alter ego, dira ce dernier vers la fin de la pièce, citant le recueil Gros mots, publié en 1999. Ensemble, mêlant leurs mots à ceux de Ducharme, les comédiens s'élèvent, malgré la lourdeur de la vie. C'était Reprendre plaisir à la vie grâce au théâtre, un texte de Roxane Léouzon paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir.
Une étude en cours pour comprendre les causes de la crise de l'eau à Pauvirnitouk. Un texte de Félix Lebel avec des informations de Samuel Watt paru le 25 juin 2025 sur Ici Grand Nord. Une étude est en cours à Pauvirnitouk pour comprendre les circonstances qui ont mené à la grave crise d'accès à l'eau dans ce village de la baie d'Hudson à partir du mois de mars 2025. Les élus de Pauvirnitouk, des responsables de la corporation Makivik et de l'administration régionale Kativik, ARK, se sont réunis au village la semaine dernière en compagnie du ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière. Le but était de faire le point sur cette crise sans précédent à Pauvirnitouk. Rappelons que, durant plusieurs semaines à partir de la mi-mars, les quelques 2000 résidents ont été privés d'eau courante à la suite du gel de la canalisation d'eau principale du village. Les nombreux blizzards printaniers avaient, eux aussi, contribué à la crise en empêchant les camions-citernes de circuler. Ces camions sont essentiels pour la livraison d'eau en l'absence de systèmes d'aqueduc et d'égouts. Le centre de santé de la communauté avait par ailleurs été obligé d'évacuer ses patients le temps que la situation se stabilise. L'état d'urgence avait aussi été décrété par la municipalité en manque de moyens face à la crise. Un problème d'infrastructure. Les résultats de cette analyse, effectuée par une firme externe, sont attendus d'ici le mois de septembre. Elle devrait apporter certains éléments de réponse aux élus. Nous savons que la conduite principale a gelé, mais pourquoi? Est-ce que c'est en raison d'un manque d'entretien? Est-ce que c'est à cause d'un manque d'équipement? Demande Ian Lafrenière. Ce dernier espère par ailleurs améliorer la communication entre le gouvernement provincial et les institutions régionales en cas de crise de ce genre. À la fin de la journée, le but n'est pas de pointer du doigt personne, mais plutôt de trouver une solution pour l'avenir, ajoute le ministre. De son côté, la présidente de l'ARK, Hilda Snowball, croit que cette étude permettra de mieux mettre en lumière l'ampleur de la désuétude des infrastructures d'eau dans la région. Toutes ces discussions, qui auront lieu après la publication du rapport, vont nous permettre d'avoir un plan stratégique en place pour Puvurnituk ainsi que les autres communautés qui font face aux mêmes problèmes avec leurs infrastructures, souligne Hilda Snowball. Cette dernière souligne par ailleurs le manque de moyens dont dispose l'ARQ pour mettre à niveau l'ensemble des infrastructures d'eau. Une nouvelle entente de financement de 2 ans est présentement en négociation avec Québec. L'ARK espère que des fonds supplémentaires seront accordés pour augmenter la fiabilité de ce service essentiel dans les 14 communautés du Nunavik. La région dispose actuellement d'une enveloppe de 175 millions de dollars pour les infrastructures municipales de 2021 à 2026, ce qui ne suffit plus, selon l'administration régionale Kativik. Lors des précédentes négociations avec Québec en 2021, l'ARK avait chiffré ses besoins à plus de 240 millions. Avec l'entente de 5 ans que nous avons présentement, la plupart des fonds sont déjà alloués. L'augmentation des prix et des matériaux se chiffre dans les millions maintenant, ajoute Hilda Snowball. Avec cette somme, l'ARK espérait notamment acheter davantage de camions-citernes et construire des garages pour les entretenir. L'administration régionale avait toutefois dû reporter certains projets au vu de la taille de l'enveloppe budgétaire accordée par Québec. C'était une étude en cours pour comprendre les causes de la crise de l'eau à Puvurnituk. Un texte de Félix Lebel avec des informations de Samuel Watt, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Grand Nord.